Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde. Retour sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera à Damas. Le départ de Bachar al-Assad n'est plus une priorité selon les États-Unis. Moscou, où Poutine fait arrêter l'opposant numéro 1, Alexei Navalny. Londres, c'est fait, ça y est, Theresa May lance le Brexit sans retour. Et puis Washington, Trump casse le dispositif promis par Obama contre le réchauffement climatique. C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Jean-François Daguzan. Bonjour Jean-François.
Bonjour Fabrice.
Directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique avec votre dernier opus, Les Armées du Moyen-Orient face à Daesh. On va en parler d'ici quelques instants. Jean-Christophe Ploquin est avec nous. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Fabrice.
Rédacteur en chef à La Croix, spécialiste évidemment des questions internationales dans ce quotidien. Alors la Syrie, pour démarrer, je vous en parlais, on verra d'ailleurs dans un instant pourquoi la Turquie a cessé ses opérations dans le nord du pays. Quand l'offensive contre Raqqa sera menée. Mais il y a eu donc cette déclaration choc de l'ambassadrice américaine aux Nations Unies concernant Bachar al-Assad. Que disait-il, que disait-elle, Madame Halley? Quand vous regardez la situation, il faut changer nos priorités. Et notre priorité n'est plus de rester assis là, à nous concentrer pour faire partir Assad. Il faut choisir ses batailles, dit-elle. Et donc la priorité, c'est Daesh. Et non plus forcément Bachar al-Assad. Jean-François Daguzan, Barack Obama, il avait toujours fait du départ de Bachar al-Assad un objectif clé de sa politique en Syrie. Pourquoi cette inflexion de la diplomatie américaine?
Je crois qu'il faut s'interroger pour le coup sur cette adhésion soudaine à ce qui relève de thèses russes ou iraniennes.
Ah bah oui.
Et là, on en revient une fois de plus à la relation russo-américaine depuis l'élection de Donald Trump. Alors, peut-être peut-on trouver que dans la première version capitulation sans condition, c'est-à-dire départ préalable de Bachar el-Assad avant toute négociation, on était allé peut-être trop loin dans les exigences et qu'il fallait ensuite réadapter ça à une réalité sur le terrain qui fait qu'aujourd'hui le régime tient les principales villes et l'axe Alep, enfin frontière turque jusqu'à Damas. Et donc le rapport de force s'est quand même fortement déplacé du côté du régime.
Bien sûr.
Mais de là à finalement endosser la position russo-iranienne pour dire finalement Assad de peut rester et parlons d'autre chose, est quand même une inflexion qui interroge et qui ne va pas lasser de poser des questions dans les chancelleries.
Ah, c'est pour ça qu'on en parle donc aujourd'hui dans 7 jours dans le monde. C'est vrai, Jean-Christophe Ploquin, je cite Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine, qui va se rendre justement à Moscou d'ici quelques jours, quelques semaines, au mois d'avril. Il explique: le sort du président Assad à long terme sera décidé par le peuple syrien. Et bien entendu, comme chacun sait, il peut y avoir des élections libres en Syrie et le peuple syrien pourra décider de dégager ou pas Bachar al-Assad.
Oui, là aussi, Rex Tillerson reprend la phraséologie habituelle à la fois du régime syrien et aussi de Moscou. Donc aujourd'hui, les États-Unis ont effectivement, ils l'avaient annoncé, qu'ils allaient modifier la stratégie de Barack Obama, effectivement essayer de ne pas se prendre trop la tête pour parler simplement avec le dossier syrien. Aujourd'hui, l'armée russe est puissamment installée en Syrie. Il faut tenir compte des réalités et Donald Trump, effectivement, s'apprête à le faire.
Oui, Jean-François, Bachar al-Assad, il est bien installé cette fois, donc, et pour longtemps dans son fauteuil de président de la Syrie, après avoir déjà triomphé, entre guillemets, évidemment, à Alep, il y a quelques mois, donc c'était cet hiver, avec les Russes et avec les Iraniens, bien sûr.
Et je préciserai que chaque fois que le peuple syrien vote, il vote pour Bachar el-Assad, puisque la partie du peuple qui vote, vote pour lui.
Est acquise.
Ouais. Donc, partant de là...
Pas des élections libres, bien entendu.
Mais même si elles sont libres, de toute façon, ceux qui vont voter, ceux qui pourraient voter contre, sont dans les camps du Liban, de Turquie, ou de Jordanie, ou en Europe. Donc, c'est ce qu'il va rester de malheureux qui pourraient voter contre, de toute façon, façon, ne le feront pas pour des raisons évidentes de sécurité. Donc la question est pliée. Et évidemment, aujourd'hui, que voit-on ? C'est la consolidation stratégique et militaire du régime, puisque maintenant, l'effort va porter sur la partie de la frontière qui est celle vers Israël, hein, avec la récupération vraisemblable de Dera, des oasis, qui fera que l'axe vertical, si on regarde une carte de Mercator, sera rétabli d'un bout à l'autre, et en laissant à Daesh les zones vides du désert, en attendant que la coalition s'occupe de les récupérer.
Eh ben oui, alors Rex Tillerson, il était à Ankara pour y rencontrer donc cette semaine le président Erdogan. Tension entre les deux pays, hein, toujours, hein, puisque la Turquie, elle dénonce le soutien apporté par Washington aux milices kurdes dans la lutte contre Daesh. Elle y voit des groupes terroristes, hein, c'est sa marotte. Hein. Les États-Unis le répètent, donc les puissances régionales doivent travailler ensemble. Ok, dit Ankara, mais sans les Kurdes, position irréconciliable entre Américains et Turcs. Jean-Christophe Ploquin, pour les Américains, les milices kurdes, elles sont indispensables.
Mais là où la Turquie a un gros problème, c'est que non seulement les États-Unis s'appuient sur les milices kurdes, mais les Russes aussi.
Ah ben on va y revenir voilà. Dans un
et
instant.
Et donc aujourd'hui, la Turquie se retrouve vraiment à ne plus savoir, j'allais dire, avec quel allié danser, hein, finalement. Elle est membre de l'OTAN, donc normalement, elle est une proche alliée des États-Unis. C'est ce qu'elle a été pendant des dizaines d'années. Et effectivement, sur cette question kurde notamment, et sur la stratégie à avoir par rapport à Bachar al-Assad, ces deux alliés se sont séparés. Et du coup, Erdogan, le président turc, est allé chercher un soutien du côté de chez Poutine, mais Poutine, lui aussi, s'appuie sur les milices kurdes, qui sont donc, effectivement, le grand ennemi de la Turquie. Donc, la Turquie est un peu dans une impasse, et est en train d'arrêter son offensive.
On va y revenir justement sur le pendant, justement, entre Moscou et Ankara également. Juste, quand même, plus l'échéance de la bataille de Raqqa se rapproche, plus les Turcs sont inquiets, hein, Jean-François Daguzan, de voir les Kurdes, quelque part, eh bien, prendre leur envol.
Oui, mais alors,
c'est leur hantise.
On a tellement tardé dans cette bataille qu'il faut expliquer que tout ceci faisait l'objet de négociations au couteau, ouais. Pour au millimètre, ouais. Pour savoir comment on allait attaquer et qui allait attaquer. Et on était arrivé à un accord plus ou moins bancal qui faisait que les Kurdes se précipitaient, s'arrêtaient aux portes de Raqqa pour bien montrer qu'il ne s'agissait pas d'une victoire kurde. Alors, c'est purement symbolique, mais comme ce sont eux qui ont la masse de manœuvre aujourd'hui, et al-Nusra, en fait, Jabhat al-Sham, désormais,
la version
etc.
Al-Qaïda,
la version al-Qaïda,
Syrienne,
également, ouais. Soutenu par les Turcs qui ont désormais peu de moyens de manœuvre. C'est hyper simple, mais aussi un peu la coalition parce qu'il faut des soldats et qu'on n'en a pas, etc. Donc nous sommes dans une situation où le temps file. Parce que personne n'est d'accord sur la façon de terminer
cette bataille
qui ne terminera pas la guerre, parce qu'évidemment, ensuite, le combat se déplacera sous forme de guérilla vers le sud et l'est.
En attendant, avant qu'on reparle de Raqqa, il y a eu aussi cette annonce, cette semaine, hein, Ankara qui met fin à l'opération Bouclier de l'Euphrate, qui avait été lancée donc fin août, hein, visant principalement les troupes de l'État islamique installées dans le nord de la Syrie. Bon, en en profitant aussi pour cibler aussi les fameuses milices kurdes, hein, c'est toujours bien pratique. Pourquoi ce retrait, objectif atteint, pourquoi l'armée turque a pris cette décision? Allez, Jean-François Daguzan et Jean-Christophe Ploquin.
Essentiellement, toujours, on en revient à la question kurde, oui. De toute façon, et sur la relation kurdo-américaine. Il faut quand même rappeler que la relation turco-américaine, qui a été extraordinaire pendant des dizaines d'années, s'est dégradée d'un coup à partir de 2003, c'est-à-dire la guerre d'Irak, où là, il y a eu une rupture majeure entre les deux pays, qui sont rabibochés plus ou moins par nécessité au fil du temps, mais qui n'a jamais été véritablement recousu, et notamment en raison de l'appui et de la position très forte que les Américains avaient pris avec les Kurdes d'Irak. Voilà. Alors, donc ça, c'était resté totalement en travers du gosier d'Ankara. Ça n'a jamais été vraiment réglé, mais ils ont fait contre mauvaise fortune bon cœur. Aujourd'hui, la même question se repose pour les Kurdes de Syrie, mais c'est encore plus différent. C'est même pire qu'auparavant. Pourquoi ? Parce que les Kurdes de Syrie, c'est une émanation de l'AKP.
Et ben voilà.
Et l'AKP, c'est les Kurdes de Turquie.
Du PKK.
Du PKK. Parce que l'AKP, c'est le parti au pouvoir.
Bien sûr, excusez-moi, du PKK. Mm. Et c'est et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où là, c'est la ligne de trop que les Turcs ne veulent plus franchir.
Le retrait aussi. Ouais, ils ont atteint leur objectif ou pas?
On peut décrire sur le terrain qu'est-ce qui se passait ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est que l'armée turque, qui, comme l'a dit Jean-François Daguzan, était là pour chasser le I, mais qui en profitait pour éliminer,
faire le ménage
auprès des milices kurdes. Il est arrivé à plusieurs reprises que des soldats américains d'un côté, des soldats russes de l'autre, se mettent sur des positions kurdes
et qui se retrouvent,
et empêchent en quelque sorte l'armée turque de mener l'offensive contre les milices kurdes. Et donc aujourd'hui, la Turquie, dans sa présence au nord de la Syrie, est totalement bornée finalement par les milices kurdes alliées aux Américains et aux Russes. Ils en tirent un petit peu les conclusions.
Juste, il n'y a pas aussi des raisons internes? Quelque part, on est à 2 semaines de ce fameux référendum du 16 avril en Turquie avec Erdogan qui veut voir renforcer ses pouvoirs présidentiels. Il n'avait pas envie de s'embourber là-bas dans le nord de la Syrie. Il y a déjà eu 70 soldats turcs qui ont été tués.
Oui, c'est quand même aussi une démonstration de nationalisme. Donc, ils auraient très bien pu s'appuyer sur une victoire facile, entre guillemets, ou en tout cas une percée, même s'il n'y a pas de victoire au bout, turque, qui aurait démontré à la population que c'était encore la meilleure armée du Moyen-Orient. Bon. Aujourd'hui, la question est différente. Cette question du nationalisme, elle est beaucoup plus liée à la question kurde qu'à la question syrienne. La construction du pouvoir d'Erdogan, qui a changé en l'espace de quelques années, puisqu'au départ, on a eu un moment de libéralisme pro-kurde, entre guillemets, dans lequel...
Jusqu'il y a 2 ans, à peu près.
Jusqu'il y a 2 ans, les relations s'étaient bien améliorées. Et aujourd'hui, on est passé sur le modèle inversé, la guerre et la répression sur l'espace kurde.
Ouais. Divergence sur la Syrie, on le disait, entre Turquie et États-Unis. Vous l'avez dit également, divergence aussi, en effet, entre la Turquie et la Russie, alliées pourtant dans la bataille d'Alep, mais Moscou soutient en effet, comme c'est expliqué, des milices kurdes qui combattent Daesh dans le nord de la Syrie. Ah, il y a même eu un bureau du Parti de l'Union démocratique qui a même ouvert dans la capitale russe. Lavrov aussi qui milite pour que des délégués kurdes soient présents, vous savez, dans toutes ces conférences de la paix à Genève autour de la Syrie.
Effectivement, jusqu'à présent, effectivement, les Kurdes sont tenus à l'écart de ces négociations parce que l'opposition officielle syrienne s'y oppose. Et effectivement, le jeu de la Russie, je pense que les Américains ne seraient pas fâchés non plus s'il y avait les Kurdes, s'il y avait les milices kurdes. Mais donc, on sent que la présence de ces milices va sans doute s'imposer dans les négociations.
Des Kurdes syriens qui progressent dans l'encerclement de Raqqa, donc on revient sur Raqqa d'un mot. L'offensive, elle débute quand, justement? On attend ou pas le référendum turc ou pas, Jean-François Daguzan?
On attend parce qu'elle aurait dû commencer il y a déjà un certain temps.
Donc à partir du 16 avril, il y a une possibilité que
il y en a une, l'offensive soit lancée. On a eu le même problème avec les Kurdes sur la prise de Mossoul, où là aussi, il était essentiel qu'ils n'aillent pas trop loin pour bien démontrer qu'ils n'avaient pas d'ambition
sur la ville.
Oui, et la région.
Oui, la région. La région. Les Kurdes, donc, sur une grosse ville arabe comme Mossoul ou comme Raqqa.
Et était essentiel d'intégrer des combattants sunnites dans le combat pour qu'il n'y ait pas que des chiites qui prennent une ville sunnite, etc. etc.
Les États-Unis vont se lancer? La France va se lancer également dans la bataille de Raqqa ou pas?
Personne ne le souhaite, a priori, mais...
Jean-François Daguzan, en même temps, on est en pleine campagne électorale, peut-être que tout ça aussi est mis entre parenthèses.
Jean-Christophe Ploquin. Il y a des forces spéciales.
Oui, ça, on l'a entendu.
Envoyer des hommes au sol du côté français, je pense que c'est totalement exclu. Non. Et les Américains commencent à dire qu'ils vont envoyer des hommes au sol, mais de façon très, très ponctuelle.
Alors, la Syrie, décidément au cœur des rencontres au plus haut niveau, donc cette semaine, grosse actualité qu'on commente dans 7 jours dans le monde. Le président iranien Hassan Rouhani, il était reçu par Vladimir Poutine à Moscou, le président russe.
Nos États aspirent à faire tout leur possible pour renforcer les liens multiformes et mutuellement avantageux et ont pour objectif de donner un nouvel élan de partenariat stratégique à la coopération bilatérale.
Vladimir Poutine, donc, au moment où il recevait le président iranien, Rouhani, oui, les deux pays sont alliés pour combattre Daesh. pour soutenir peu ou prou, alors selon les degrés, Bachar el-Assad, bien sûr, mais est-ce qu'une rivalité n'est pas en train de naître entre les deux pays sur le terrain syrien, compte tenu de l'ampleur du dispositif militaire déployé par l'Iran? Donc on parle d'une vingtaine de milliers de combattants, alors soit des Iraniens directement, soit bien sûr le Hezbollah. Jean-François Daguzan.
Il est évident que... À l'issue des combats et de la victoire prévisible du régime à la vitesse où se déroulent les offensives soutenues par la Russie et l'Iran, c'est l'Iran qui fait le travail sur le terrain, avec le Hezbollah libanais qui a versé beaucoup de sang dans cette affaire-là, les Pasdaran... Oui. Les milices payées, armées et déplacées, notamment venues d'Afghanistan, d'Afghans vivant en Iran.
Les avant-kurdes qu'on appelle les Afghanchis qu'on appelle les Hazaras.
Les Hazaras, qui autrefois avaient un droit d'installation permanent sur le sol iranien, qui maintenant doivent payer l'écho, c'est-à-dire envoyer les enfants pour combattre en échange du passeport ou même aujourd'hui d'une réinstallation en Syrie.
Carrément.
Parce
d'accord.
qu'il y a des phénomènes de remplacement de population d'accord. qui sont organisés, où on rachète à vil prix les appartements des réfugiés pour installer des familles venues d'ailleurs. Ah ouais. Donc cette question de l'occupation et de la reconstruction au sens le plus large possible de la Syrie, faite par l'Iran et ses alliés, va être quand même un des éléments centraux de la suite.
Jean-Christophe Floquin, La Croix.
L'Iran, donc on sait qu'elle, depuis sa position en Asie, son grand rêve, c'est donc l'accès à la mer Méditerranée.
C'est l'arc chiite.
C'est l'arc chiite. Ouais. Et c'est l'accès
il
à la mer
Méditerranée. C'est d'être une
puissance méditerranéenne.
Ensuite le Liban.
Exactement, voilà, c'est cette succession que vous décrivez.
Il y a un petit morceau aussi au Yémen, bien sûr.
Alors, avec peut-être un jour, si les Iraniens rêvent, peut-être des gazoducs ou des oléoducs qui iraient directement de l'Iran, finalement, vers la Méditerranée, ce qui éviterait d'avoir des bateaux qui feraient le tour, du détroit d'Oman, de remonter le canal de Suez, etc. Donc il y a vraiment un enjeu stratégique pour l'Iran. Il y a l'enjeu effectivement de l'unité des communautés chiites qui est le grand vecteur d'influence de l'Iran. Et ça, à un moment donné, ça va se heurter effectivement avec la vision russe qui elle aussi veut utiliser la Syrie comme une base sur la Méditerranée. Et ce sont quand même deux pays qui ont réussi à s'entendre alors que beaucoup pourraient les opposer. Donc, il ne faut pas parier sur un éclatement de cette alliance,
non,
finalement.
Non.
Il y a toujours une base russe qui est en Iran. Donc, ils vont continuer à travailler de façon très... ça leur a réussi. Mais il va y avoir, effectivement, des crispations, et notamment autour de l'avenir de Bachar el-Assad.
Oui, bien sûr.
Puisque l'Iran y tient absolument... Les Russes pourraient le remplacer par quelqu'un d'autre.
Bien sûr. Oui. L'Iran très présente aussi dans l'économie syrienne, de plus en plus, Jean-François Daguzan, dans les opérateurs téléphoniques, dans les mines, dans les banques. Ils s'installent vraiment pour de bon là-bas.
Tout va de pair, évidemment. Ouais. Le modèle de reconstruction iranien arrive avec tous ces instruments, y compris bancaires, d'ailleurs qui sont la plupart du temps dans le Golfe, à Dubaï, puisque c'est la plaque tournante de nettoyage industriel de la finance. Et la réimplantation de populations locales venues d'ailleurs, l'économie, la finance, et donc finalement la prise de contrôle peu ou prou d'un espace désormais accessible qui sera, comme vient de le dire Jean-Christophe, lié à l'Irak et au Liban. Et un dernier point, la Russie n'a pas de très gros intérêt sur la Syrie en dehors de deux points majeurs. Celle des bases, mais qui sont un élément marginal, mais
partout
important.
Partout sur la Méditerranée,
partout,
notamment.
Partout, c'est attaqué. Mais surtout, l'obsession russe, c'était le fait de fixer la guerre contre les sunnites radicaux en Syrie, pour ne pas l'avoir dans le Caucase une troisième fois. Donc il y a cette obsession majeure de créer une espèce de Verdun du djihadiste à 1200 kilomètres par la route de Grozny. Et ça, c'est un élément qui a beaucoup pesé. Après que les Iraniens tirent les marrons du feu, à condition que ce soit raisonnable, il n'y a pas de raison qu'il ne les laisse pas faire.
La Russie, dans l'actu de la semaine, actu internationale, bien sûr, on en dit un mot au travers des manifestations anticorruption. Donc, c'était le week-end dernier à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Vladivostok, bref, dans une centaine de villes russes. Les premières d'importance depuis le retour au Kremlin de Poutine, c'était il y a 5 ans. 10 000 personnes dans la capitale, un millier d'arrestations, dont le principal opposant à Poutine, Alexei Navalny, condamné à 5 ans de prison avec sursis, dont 15 jours ferme, pour avoir organisé une manifestation interdite. Navalny.
Il n'y a ici aucune douce illusion sur une justice équitable. Apparemment, la priorité est donnée à l'urgence de prendre une décision.
Ouais, c'est un avocat, il a 40 ans, il est blogueur, il avait révélé dans une vidéo sur YouTube l'ampleur de la fortune du Premier ministre Dimitri Medvedev, résidence de luxe, yacht, grâce aux dons des oligarques. Une peine de prison de 5 ans avec sursis, je le disais. Il est donc inéligible pour l'élection présidentielle de l'an prochain. Alors à ceux qui, en France, voient abusivement la main de la politique sur la justice, je ne fais allusion évidemment à rien du tout. Là, Jean-Christophe Floquin, n'avez aucun doute, évidemment, tout est contrôlé.
Bien sûr, et là je pense qu'on voit vraiment, pour ceux qui en France ont un peu Poutine pour modèle, je trouve que voilà, on a un bel exemple de ce qu'est la démocratie selon Vladimir Poutine. Ce n'est pas une démocratie, c'est une démocrature, comme le disent certains, c'est-à-dire on a un peu les habits de la démocratie, on a des élections régulières, mais on a une presse assez pluraliste, on a quelques associations qui travaillent, mais tout ça est sous contrôle étroit d'un appareil policier et sécuritaire extrêmement fort et c'est organisé finalement sous un aspect très pyramidal avec le Kremlin qui est au sommet et qui tire les ficelles.
Jean-François Daguzan, il est connu, Alexis.
Je dirais rien à ajouter à cette démonstration.
Alexis Navalny, il est connu, il est apprécié, ou alors finalement est-ce que les Russes quelque part ils ont pas envie de garder la stabilité, Poutine, Medvedev quelque part?
Je crois que la stabilité a été une obsession russe pendant des années et des années. Poutine a été élu et réélu parce qu'il illustrait le retour de la Russie sur la sphère internationale. Maintenant, le temps passe et là où les Russes pouvaient accepter un contrôle étroit de la répression pour reconstruire, l'effritement de l'image a quand même très fortement commencé. Donc, ce qui sera intéressant de voir, c'est si Navalny amène autre chose derrière, s'il est le début, finalement, d'un mouvement d'usure que le pouvoir est en train, quand même, de marquer.
Ouais, Jean-Christophe.
Oui, ce qui était intéressant, c'était de voir que les militants, les manifestants étaient très jeunes. Oui. Parfois, ils avaient 15-16 ans. Effectivement, ça s'est beaucoup passé par les réseaux sociaux. Donc, voilà, on voit bien...
Une dizaine de millions de vues sur YouTube, cette fameuse vidéo.
Exactement. Donc, on voit bien qu'il y a là un espace encore de jeu, en quelque sorte, très important. Mais ça ne menace absolument pas le régime de Poutine.
Un mot aussi quand même sur un pays dont on ne parle quasiment jamais, à la frontière russe bien sûr, la Biélorussie, justement au cœur de l'Europe, avec là aussi des manifs le week-end dernier contre le pouvoir, qui a choisi la force pour réprimer manifestations contre une mesure fiscale. Minsk, c'est la capitale de la dernière dictature du continent européen, Jean-François Daguzan, avec le président Loukachenko au pouvoir depuis 1994.
En tout cas, ça y ressemble fortement, puisqu'on peut noter que depuis 1993-1994, on est sur une situation qui n'a guère évolué, sinon dans le mauvais sens d'ailleurs, puisque ça s'est plus dégradé qu'amélioré.
Ça évolue quand même, parce que Moscou lâche...
Le paradoxe, justement,
Minsk aimerait se tourner un peu plus vers l'Union européenne.
Au moment où la Russie a repris du poil de la bête et s'est imposée sur l'espace européen avec la crise ukrainienne dans laquelle la Russie a marqué tous les points et a donné tous les coups sans qu'on ait été capable d'en rendre, et la crise syrienne, c'est à ce moment-là que les relations se dégradent. Et la question qu'il faudrait essayer de suivre, mais là il y a des russologues qu'il faut interroger plus que moi, c'est justement pourquoi réellement les relations sont devenues dégradées entre ces deux pays alors qu'elles ne devraient être que meilleures.
Bon, on va continuer dans un sens. On reparlera de Vladimir Poutine, qui, comme Donald Trump, ne s'embarrasse pas de sentiments, finalement, au niveau de l'environnement, au niveau de la planète. Et puis le Brexit s'est lancé. C'est 7 jours dans le monde qu'on va retrouver dans un instant sur BFM Business, à la télé, à la radio, avec Jean-François Daguzan et avec Jean-Christophe Floquin. Tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et toujours avec Jean-François Daguzan, le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, qui vous propose eh bien son dernier opus, Les armées du Moyen-Orient face à Daesh, l'État islamique dont on a largement parlé donc dans la première partie de 7 jours dans le monde. Et puis Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef au quotidien La Croix. Oui, dans l'actu, il y a Trump qui continue d'essayer de détricoter tout ce qu'avait fait Barack Obama. On va y revenir dans un instant. Oui, le président américain qui avait déjà rencontré en haut lieu Angela Merkel, bon, dans les conditions qu'on a pu rappeler encore la semaine dernière, Theresa May, bien sûr, Shinzo Abe, gros morceau aussi, ce sera jeudi et vendredi prochain, dans sa villa luxueuse de Floride, avec Xi Jinping. Alors vous vous en souvenez, tout ce qui s'était dit pendant la campagne électorale américaine, la Chine se réarme, la Chine manipule sa monnaie, la Chine vole des milliers d'emplois aux États-Unis, Trump, qui avait pris au téléphone la présidente de Taïwan, ça avait considérablement énervé. Bon, ça va donner quoi cette rencontre en haut lieu, tiens, Jean-Christophe Ploquin? Difficile, disait lui-même Donald Trump sur Twitter, c'était jeudi soir.
Je pense que on attend ça avec beaucoup d'impatience, parce que voilà les deux géants économiques mondiaux, voilà la superpuissance mondiale et puis la superpuissance régionale qui est en train de monter, et ça y est, enfin, leurs dirigeants se rencontrent, alors que jusqu'à présent, effectivement, Donald Trump était plutôt sur une ligne de confrontation. Mais pour le moment, moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a un peu laissé passer le temps et que avec la Chine, pour le moment, c'est un peu business as usual. Donc, est-ce que on peut penser que là, ils vont mettre un certain nombre de dossiers compliqués sur la table? Ils vont parler effectivement exportation chinoise. Je pense que Donald Trump va essayer d'avoir des garanties comme quoi sur un certain nombre de sujets comme l'acier, les Chinois vont un peu modérer les exportations. Donald Trump va sûrement essayer de s'afficher par rapport à son opinion publique à nouveau comme le défenseur de l'emploi américain, mais Xi Jinping a absolument pas l'intention de se laisser faire. De son côté, il a une croissance à assurer en interne pour son pays, il a un développement technologique qui est la nouvelle voie de croissance et dans lequel il veut continuer à investir, et donc les deux pays restent quand même sur des lignes un petit peu de confrontation.
Alors il y a le dossier économique, Jean-François Daguzan, et puis on parlera évidemment aussi de la Corée du Nord, de la mer de Chine, bien sûr, du déploiement il y a une dizaine de jours en Corée du Sud par les États-Unis d'un missile antimissile, d'un bouclier antimissile. Bon, ce sont des sujets conflictuels, mais en même temps, impossible de ne pas se parler, impossible de ne pas se voir.
Bien entendu, dans l'affaire américano-chinoise, on se tient par la barbichette. Et il y a eu les déclarations tonitruantes de Trump se heurtent à la réalité des faits, c'est-à-dire l'imbrication profonde des économies des deux pays. La Chine a besoin des États-Unis pour vendre et vice-versa, les États-Unis ont besoin des Chinois pour produire. Et de ce point de vue-là, pour une durée indéterminée, je ne vois pas comment ces deux-là peuvent se séparer. D'autre part, il faut quand même rappeler que la Chine est propriétaire de la dette américaine, ce qui était le cas du Japon autrefois, mais maintenant, ce sont les Chinois. Et pour, à titre de menace, ils ont commencé à en vendre après l'élection de Trump, histoire de dire,
on est là.
Vous savez, vous commencez à pas être trop crédible, là, peut-être qu'on va commencer à se délester. Ce qui est évidemment insupportable pour les États-Unis. Et d'ailleurs, pour le reste du monde, si ça venait à se produire vraiment. Donc, il y a un rapport de force qui va s'établir, mais tout le monde joue une forme de jeu où on sait à peu près à quoi s'en tenir. Après, il y a les questions stratégiques, effectivement, qui sont peut-être différentes et très sensibles à la fois. C'est-à-dire la Corée et le déploiement d'un bouclier antimissile que les Chinois ont immédiatement
condamné,
bien sûr, alors qu'ils savent très bien que la Corée du Nord commence à les embêter autant que les Américains, sinon plus. Et puis, sans doute encore plus sensible, la question de la mer de Chine avec les revendications territoriales, maritimes
sur les îlots sino-japonais, vietnamiens,
non seulement le Japon, mais également le Vietnam
et les Philippines,
et qui peuvent réellement mal se passer pour des questions de pur nationalisme.
Alors, un mot, Jean-Christophe Lecoeur.
Oui, donc, juste revenir sur ce choix de Donald Trump en arrivant d'annuler le traité de libre-échange qui avait été négocié avec la zone Asie-Pacifique. Je crois qu'il y a peu d'exemples comme ça d'un État qui se prive d'un atout majeur, hein, puisque c'était un accord de libre-échange qui avait été prévu pour contourner la Chine, en quelque sorte, hein, pour liguer un certain nombre de grandes nations de l'Asie-Pacifique.
Et du coup, la Chine va s'engouffrer dedans,
et maintenant, profiter. C'est un boulevard pour la Chine. C'est très étonnant.
Bon, est-ce qu'ils parleront du climat lors de ces rencontres de jeudi et vendredi prochain? On se souvient que la COP 21, vous vous souvenez, la COP 21, donc à Paris, hein, avait été conclue avec succès grâce aux engagements de la Chine et des États-Unis. Mais à l'époque, c'était Barack Obama qui était le président. Depuis, Donald Trump, il s'interroge, justement, il compte réexaminer l'accord de Paris, réponse normalement eh bien fin mai au G7 en Sicile. En attendant, le président américain va signer cette semaine un décret cassant tout ce que Obama avait promis en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, le président Trump.
Avec le décret d'aujourd'hui, j'ai fait un pas historique pour lever les restrictions sur l'énergie américaine, pour revenir sur l'intrusion du gouvernement et annuler les réglementations qui tuent l'emploi. Mon gouvernement met fin à la guerre contre le charbon. Nous allons avoir du charbon propre, du charbon vraiment propre.
Et donc, au nom de l'emploi, au nom de la croissance, le charbon va donc être relancé. Magnifique charbon, voilà ce qu'il disait pendant la campagne. Hein. Des mines vont être ouvertes, accélérées également dans les pétroles de schiste. Hein. En plus des mesures déjà prises, hein, le coup d'envoi de l'oléoduc, suspendu donc eh bien du temps de Barack Obama. Puis des moindres pouvoirs donnés donc à l'Agence de protection de l'environnement. La mesure, elle va passer plus facilement que l'Obamacare, Jean-François Daguzan. Il va pouvoir tout démanteler. Les mentalités aux États-Unis sont prêtes à ça ou
pas? C'est sans doute beaucoup plus facile que l'Obamacare, parce que, on va dire, il y avait un effet de traîne d'aspiration par Obama et l'idée qu'il fallait jouer le jeu d'une compétition désormais avec des bases nouvelles propres et environnementales et que cela pouvait servir d'ailleurs de modèle économique de croissance. C'était ça l'idée d'Obama. Dès son premier mandat. Bon, aujourd'hui, Trump a décidé de faire totalement autre chose, mais il n'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de résistance en dehors des associations
de défense de l'environnement.
De l'environnement.
Voilà. Et de Sioux, par exemple, puisque les oléoducs traversent des réserves de Sioux.
L'effet que ça a produit, c'est que Poutine s'est engouffré.
On va en parler dans un instant. Jean-Christophe Lecoeur, La Croix.
Alors, le beau charbon, d'accord, mais est-ce que vraiment ça va se passer, ce qu'annonce Donald Trump? Le charbon, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de charbon américain? Parce qu'il est très cher.
Ça coûte cher, bien sûr.
Et donc,
c'est plus rentable.
Qu'est-ce qui rend le charbon cher, finalement, par comparaison aujourd'hui? C'est le gaz de schiste américain. Donc, finalement, ça va être américain contre américain.
Et au Texas, c'est la ruée vers l'or noir, dans le nord des États-Unis également. Voilà,
et une autre conséquence qui, m'a vraiment choqué, mais c'est l'annonce récemment que Westinghouse se mettait sous la loi dans la protection des faillites.
Voilà. Et donc, ça veut dire le géant du nucléaire
américain, le géant vraiment des 50 dernières années, qui est obligé de mettre la clé sous la porte à cause de cette énergie pas chère qui rend du coup l'énergie nucléaire beaucoup plus chère, beaucoup moins compétitive. Donc là, il y a vraiment des virages qui sont en train d'être pris en termes de mix énergétique aux États-Unis, absolument surprenant.
Jean-François Daguzan.
Oui, et rappelons quand même que le charbon pas cher, il existe dans deux endroits dans le monde, en Afrique du Sud et en Australie. Pourquoi? Parce que ce sont des mines à ciel ouvert et que l'on peut l'extraire de façon très simple. Je suis pas sûr que l'on passe sur ce modèle aux États-Unis dans les mois qui vont venir.
Donald Trump, c'était l'un de ses combats durant l'élection. Il avait ouvertement mis en doute la réalité du réchauffement climatique. Et Poutine aussi, vous le disiez, Jean-François Daguzan, il a remis en cause la part de l'homme dans le changement climatique. Il se trouvait dans l'Arctique russe, dans l'archipel François-Joseph, cette semaine. Et Poutine explique que la fonte des glaces due au réchauffement climatique, c'est bon pour la navigation. C'est bon aussi pour l'exploitation des ressources naturelles. Là aussi, on est bien loin de l'accord de Paris,
On est très loin de l'accord de Paris. Et alors, je pense que pour le coup, les Chinois vont s'engouffrer dans cette brèche. Parce que s'il y en a qui ont intérêt au passage du Nord-Ouest, qui est le terme officiel de la traversée de l'Arctique.
Au travers des ex-glaces.
C'est à eux que ça profitera avant de profiter même aux Russes, d'une certaine manière. En revanche, c'est dans l'exploitation de cette terre vierge que les questions risquent de se poser. Des dégâts sur l'écologie. Et le système
30%
mondial.
30% des réserves de gaz mondial, elles se trouvent dans l'Arctique. Et justement, 70% de ces mêmes réserves de l'Arctique, elles sont sous souveraineté russe. La Russie, Moscou, veut se renforcer aussi militairement. Ça va être la nouvelle terre d'affrontement, la nouvelle terre de tension, l'Arctique, ou pas, Jean-François Daguzan, Jean-Christophe
Coquin. Ils ont toujours été très présents. Ça a toujours été un enjeu soviétique. Il faut quand même le rappeler. Alors, ce n'était pas facile à vivre. Les Américains aussi, évidemment, en contrepartie, s'y intéressaient. Mais les missions russes ont quand même été extrêmement présentes. La militarisation, même s'il était interdite, rampante, tout ceci faisait que les coups pourrait exister, mais on ne les voyait pas trop. Aujourd'hui, l'enjeu économique est tel que ça libère le surmoi de ces grands prédateurs.
Quelques résistances et quelques hésitations. Jean-Christophe Floquin-Lacroix.
Moi, ce qui me frappe, effectivement, pourquoi est-ce que Trump et Poutine ont besoin, comme ça, de remettre en cause l'accord de Paris ? Je pense qu'au-delà des considérations sur le climat, il y a aussi un certain regard sur le multilatéralisme. Il y a aussi un certain regard sur une communauté internationale qui se met d'accord sur des accords contraignants qui acceptent finalement d'abandonner un peu de souveraineté pour le bien commun. Le bien commun, c'est la Terre est en train de se réchauffer et il y a des populations qui vont en souffrir gravement. Et donc, voilà deux leaders qui finalement préfèrent se contenter, entre guillemets, des intérêts nationaux, America's first, et pour la Russie, c'est évident. Et du coup, ce type d'accord va être beaucoup plus compliqué et les relations internationales vont être beaucoup plus complexe.
On entend le même discours aussi en Europe vis-à-vis de Bruxelles de la part de certains responsables politiques, quels qu'ils soient, justement.
Ouais.
Oui, alors l'Union européenne, journée historique, c'était mercredi 29 mars 2017, c'est fait avec Theresa May qui active officiellement l'article 50 du traité de Lisbonne et donc, voilà, qui ouvre les négociations sur le fameux Brexit. Theresa May.
This is an historic moment from which there can be no turning back.
Voilà, sans retour, dit Theresa May. Bon, alors, évidemment, le calendrier, très ambitieux, normalement 2 ans, voilà, bon, au moins. Négociations avec l'Union européenne qui vont être très dures sur le statut des Britanniques, du continent, des continentaux, donc qui se trouvent au Royaume-Uni, sur la facture finale. Le Royaume-Uni devra tenir tous ses engagements financiers, disait Donald Tusk, le président du Conseil européen, c'était vendredi. On a dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous retenez de cette semaine, si vous deviez exprimer un sentiment, une idée ? Tiens, Jean-Christophe Floquin.
Moi, je dirais, on sent bien à la fois du côté européen et du côté britannique le souhait d'aborder les négociations avec un esprit ouvert. Personne ne veut aller au clash. Et en même temps, on voit très vite combien les clashs vont arriver, tellement les enjeux sont lourds, tellement pour... Il y a des enjeux financiers, effectivement. La Grande-Bretagne va devoir rembourser un certain nombre de sommes d'argent à l'Union européenne. Mais il y a aussi, finalement, la compétitivité de Londres, la compétitivité de l'Europe. Quand on voit que la Lloyd's britannique va ouvrir un bureau à Bruxelles, la Lloyd's, qui a été créée il y a 300 ans, qui est vraiment une institution.
La grosse compagnie d'assurance britannique.
C'est comme la monarchie britannique, c'est aussi fort.
Quasiment. Bon.
Et ben voilà, ça veut dire que quand même, il y a vraiment des failles qui sont en train de s'ouvrir. Et la première négociation difficile, finalement, ça va être, est-ce que on négocie d'abord sur la sortie de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne, ou bien est-ce qu'on négocie en même temps? Finalement, est-ce qu'on donne un horizon aux entreprises qui sont à Londres et qui ont besoin d'être rassurées sur ce qui va se passer ? Et donc, est-ce qu'on emboîte en même temps une négociation sur les futures relations ? Et les Britanniques veulent les deux en même temps, et les Européens disent non, on négocie d'abord la sortie, et après, la deuxième phase. Et là, déjà, il y a un nœud très difficile.
Jean-François Daguzan.
Deux choses très importantes. Les Anglais le jouent à la dure dans le discours de Theresa May. La réalité, c'est que c'est l'inverse qui s'est produit. Ils ne s'attendaient pas à ce que les Européens leur rentrent dedans avec autant de dureté. Okay. Et ce sont les Européens qui sont durs et les Anglais qui avalent la couleuvre. Et le terme 2 ans fait partie de ce verrouillage que Bruxelles et les États membres restants ont décidé d'appliquer. Donc, les Anglais sont en position de faiblesse très clairement là-dessus. Deuxième élément très important. L'éclatement du Royaume-Uni.
Ah, voilà,
ouais.
Voilà. Ouais. Et avec notamment en Écosse les députés qui ont donné leur feu vert à un nouveau référendum. Blocage toujours en Irlande du Nord avec l'émergence du Sinn Féin.
Se commence à se poser la question de la réintégration dans l'Irlande. On est peut-être au moment d'un changement de monde dont on n'a pas idée.
Moi, j'avais lu, évidemment, et je vous conseille de le faire également, La fin de l'État-nation, signée d'un certain Jean-François d'Aguzan. Hein, donc, c'était il y a un an et demi à peu près. On est en plein dedans. Vous parliez aussi bien du proche du Moyen-Orient que ce qui se passe en Europe. Vous parliez de la Catalogne. Alors, Écosse, Irlande du Nord, c'est quoi la prochaine étape sur le continent même? Et je ne vous parle pas de Gibraltar. Gibraltar qui a voté à 96% contre le Brexit. Ils auront peut-être envie aussi de s'émanciper.
L'Espagne.
Hein. Bien sûr. L'Espagne, bien sûr. L'Espagne. La Catalogne, l'Italie peut-être, je ne sais pas. Oui, Jean-Christophe Ploquin.
La Belgique. Hein,
la Belgique déjà séparée de facto, d'une certaine manière.
Alors, y aura-t-il un clash autour des questions de sécurité? Non, a priori. On va continuer à en parler justement du Brexit et de façon générale, l'Europe de la défense. Et la France aussi tient contrainte de louer des appareils de transport, de matériel ukrainien et russe. On essaiera de comprendre pourquoi. Avec Jean-François d'Aguzan, avec Jean-Christophe Ploquin, pour la suite et la fin de 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et toujours avec Jean-François d'Aguzan, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, et puis Jean-Christophe Ploquin, qui anime, eh bien, sur le site de La Croix, son blog Paris Planète. Il est rédacteur en chef à La Croix. Oui, avec au cœur de ce blog Paris Planète, les questions européennes, les questions du Brexit, hein, notamment avec les positions de Michel Barnier, qui négocie au nom de l'Union européenne, eh bien, cette séparation. Oui, on y revient d'un mot avec les questions de défense en Europe. Hein. Brexit ou pas, le Royaume-Uni ne faiblira pas, voilà, en matière de sécurité. Promesse faite vendredi matin par le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson.
L'engagement du Royaume-Uni pour la défense et la sécurité de l'Europe est inconditionnel. Ça ne sera pas un élément de marchandage dans les négociations ici à Bruxelles.
Voilà, Boris Johnson. Pas de marchandage, Jean-François d'Aguzan. Le Royaume-Uni sera toujours là. Hein.
Oui, mais je comprends pas ce que ça veut dire.
Ouais. Parce que certains ont pu dire, laisser croire, en effet, de mettre dans la balance la coopération de Londres en matière de sécurité avec l'obtention d'accords commerciaux.
Soyons clairs, la défense, c'est l'OTAN. Ouais. Ils ne partent pas de l'OTAN, donc les choses sont réglées. Seul peut poser la question d'une coopération en matière de lutte antiterroriste, dans lequel dire l'insertion dans des systèmes de type Europol ou la contribution, enfin l'acceptation des règles européennes en matière de lutte antiterroriste, le mandat d'arrêt, les fichiers,
etc.,
sont des éléments relatifs qu'ils peuvent parfaitement continuer de faire suivre, parce que ça les intéresse eux que ce modèle coopératif continue de fonctionner. Donc, si vous voulez, c'est un non-sujet.
Jean-Christophe Ploquin.
Sur le bilatéral, hein, aussi bien les Français que les Britanniques ont dit, même avec le Brexit, on continue notre relation très étroite.
D'ailleurs,
et les accords de Lancaster House continuent à s'appliquer.
Signés entre Sarkozy et Cameron, donc c'était en 2010 de mémoire.
Hein. Oui, mais rien ne change. Oui,
rien ne change. Et d'ailleurs, à tel point, je lisais un article très intéressant, et on le salue, parce que je crois qu'il viendra nous voir d'ici quelques semaines dans 7 jours dans le monde, Jean-Dominique Merchet de l'Opinion, qui expliquait que malgré le Brexit, le missile Exocet de demain, il sera franco-anglais, hein, Jean-François d'Aguzan. C'est un missile de croisière, un missile anti-navire. On se souvient d'ailleurs comment l'Argentine l'avait utilisé justement contre les mêmes Britanniques en 82 pendant la guerre des Malouines. Programme de plusieurs milliards d'euros. Il sera construit par MBDA. La coopération, elle se poursuit. Voilà, rien ne change.
Et dans le domaine maritime également, hein, dans lequel les relations sont extrêmement fortes, et même dans des domaines où on va plus vers de l'insertion que de la coopération pure et dure.
Le Royaume-Uni, c'est le premier budget militaire de l'Europe. Hein. Je ne parle plus de l'Union européenne, mais de l'Europe. 40 milliards d'euros versus la France, 32 milliards par exemple. Ça veut dire quoi? Il va falloir réfléchir à une Europe de la défense éventuellement pour pallier le retrait entre guillemets, parce que il y aura pas de retrait en matière de défense, si oui ou non, ça va continuer les accords, vous le disiez.
Le retrait, il faut bien rappeler que les Britanniques ont toujours été en marge de la défense européenne en dehors de l'OTAN.
Oui.
Donc ce n'est que du coup par coup et ça a toujours été leur modèle. En revanche, la grande question n'est pas le retrait des Britanniques, c'est le retrait des Américains de l'OTAN.
Bien sûr.
sous une forme ou sous une autre, un allègement très fort.
On en saura plus le 25 mai, puisque Trump sera au sommet de l'OTAN.
Et peut-être que ça prendra du temps, mais on sent bien, d'une certaine manière, que ce mouvement qui avait commencé de façon informelle, en tout cas lente et souterraine, déjà depuis Obama, le retrait européen, il était déjà dans les têtes. Il va s'accélérer et que, pour le coup, les Européens vont devoir réfléchir très rapidement à ce que peut être une défense avec peu d'Américains, sinon pas d'Américains.
Mais on commence à réfléchir à une Europe de la défense. Pour pallier éventuellement le départ du Royaume-Uni.
Alors c'est encore très en amont, mais sommet de Bratislava, sommet de Rome, à chaque fois, les Européens, les 27, après le départ des Britanniques, commencent déjà à parler de défense européenne. C'est l'un des sujets qui est sur la table. Et on voit que les Allemands commencent aussi à augmenter leur budget de la défense. Donc il y a du mouvement. Après, effectivement, l'un des grands enjeux, c'est est-ce que les Européens vont créer des sources de financement, des fonds qui vont leur permettre d'acheter des armements, de fabriquer des armements européens, de développer une industrie européenne de défense. Et là, quand même, pour les Britanniques, j'imagine que ce serait compliqué pour eux de voir des industriels de l'armement européens se développer et sans eux.
En attendant, justement, que ce soit l'Allemagne ou que ce soit la France ou d'autres pays, on va louer des avions gros porteurs, notamment des Antonov 124, énormes, hein, pour transporter aussi bien des chars que des hélicoptères. On les loue à qui ? Aux Ukrainiens. On loue également des Ilyushin aux Russes pour les transports de troupes, transports de matériel, notamment l'opération Barkhane au Sahel. C'est un rapport parlementaire du député François Cornu-Gentil qui a souligné quelque part la pauvreté de nos moyens de transport aérien, qui dit voilà, tout ça, attention, ça met en doute l'autonomie stratégique française. Déjà, question, Jean-François Daguzan, pourquoi on est obligé de louer des appareils aux Ukrainiens ou aux Russes ? Est-ce que c'est préjudiciable ou pas pour notre défense ?
Mais attendez, on découvre l'eau chaude. Hein, permettez-moi de tomber de la chaise, ou en tout cas de me cramponner au bureau, parce que ça fait 20 à 30 ans que l'on fait ça.
Oui, mais en ce moment, il y a un contexte qui fait qu'avec la Russie, depuis 4 ans, donc, on se pose la question en disant, mais pourquoi est-ce qu'on confie les clés de notre matériel aux Russes ?
De la première guerre du Golfe, guerre du Koweït.
En 90, hein.
Oui, 90.
Oui, c'était à cheval sur les deux années. Oui, bien sûr.
Où il avait fallu déjà louer du matériel lourd de transport ou profiter, et je me rappelle, d'opérations du passé où les Marocains nous avaient prêté des avions de transport. C'est pour vous dire que ça ne date pas d'hier. Et donc là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on n'a pas d'avion de transport. Enfin, il faut quand même arrêter de dérailler.
Alors qu'il y a quand même le programme Airbus
A400M, voilà.
Qui ne peut traiter qu'une partie du problème.
Bien sûr.
Les gros porteurs dont on parle, il n'y a que deux pays qui en font. Ce sont les Américains, qui ne veulent pas en prêter.
C'est tout juste.
Et les Russes qui, évidemment, trouvent là moyen de...
Dans la 401, on ne pourra pas mettre d'hélicoptères, bien sûr.
Donc, ce sont des avions bien précis dans lesquels on peut mettre jusqu'à des hélicoptères. C'est tout à fait considérable. Mais tout simplement parce qu'on n'a jamais eu une politique visant à construire seul ou en communauté, en coopération, un avion européen de ce type, et qu'on s'est dit que le ciel y pourvoirait. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui.
La 400M, il a du retard.
Et sans que ce soit résolu, termine juste par un point. Avec des risques évidents, et ça pour le coup le rapport a raison d'exister, je dirais, il faut se rappeler que les Espagnols ont perdu 60 soldats lors d'un crash d'un avion ukrainien loué à la Géorgie, qui serait passé par des intervenants yougoslaves, etc. Et les gens sont allés mourir dans le Caucase, tout simplement parce qu'il était incapable de voler et que les pilotes étaient incapables de le conduire.
Juste un mot très court, on y a consacré une émission des décodeurs de l'Écho cette semaine. La 400M, très bel avion, multitâche, multifonction, qui a du retard, qui coûte cher.
L'avion en coopération, tout avion en coopération, comme tout programme militaire en coopération, est plombé au départ. Mais justement, et c'est sans doute là que le problème se pose, c'est que au départ, on dit ça coûte cher. Sauf que dans la réalité, il va coûter 10 fois plus cher parce qu'il aura été fait en coopération. Parce que tout le monde voudra
clients, bien sûr.
Un morceau de l'avion à fabriquer, voudra des fonctions qui sont différentes,
propre, bien sûr.
Voudra qu'il fasse papa, maman, qu'il vole, qu'il monte sur l'étagère, qu'il rentre dans un tiroir et qu'il roule la nuit, le jour sous la pluie et sous la neige et dans le désert, et que la multiplication des spécifications va faire qu'il va devenir impossible à gérer. Et le fait qu'il n'y ait pas de coordination sérieuse dans la construction, et le fait qu'on ait confié ceci aux Espagnols qui, pour le coup, ont peut-être été au-delà de leur capacité d'intégration, fait que cet avion, qui finira par voler, rappelons-le quand même, est en difficulté.
Jean-François Daguzan qui nous a accompagné dans 7 jours dans le monde sur BFM Business, à la télé, à la radio. Je rappelle donc les armées du Moyen-Orient face à Daesh. Un grand merci également à Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef dans le quotidien La Croix, qui anime le blog Paris Planète. C'est fini pour 7 jours dans le monde. Rendez-vous le week-end prochain.
BFM Business, 7 jours dans le monde.